Bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent. Alors je rappelle très brièvement, hier soir nous avons vu deux pensées. La première était celle de « tous abeilles mais différents services ». Nous avons vu combien il était important de reconnaître nos différences pour qu'elles soient complémentaires. Et en même temps, nous avons vu quels sont et quels pouvaient être les dangers, les pièges de cette relation en interne dans le corps de Christ, l'Église, l'Assemblée. Et je me suis arrêté en deuxième partie sur ce que j'avais intitulé « Quand une mouche tombe dans le miel ». Et je m'étais arrêté tout particulièrement sur le problème d'un des petits membres de notre corps, la langue, qui, suite à l'épître de Jacques, nous avons étudié ce texte, fait beaucoup de mal, de ravages, au sein même de nos assemblées, malheureusement, et en extérieur, bien sûr, aussi. Et j'aimerais poursuivre donc, comme je vous l'avais annoncé, par cette troisième pensée que je développe cet après-midi, construire une alvéole de miel spirituel. Et cela va porter sur ce qui m'apparaît être comme la grande force pour s'opposer aux méfaits de la langue en particulier, une grande force parce que nous en sommes nés et nous en vivons. C'est un thème, je dirais, à la fois important et difficile à gérer, qui est celui du pardon. On parle peut-être pas beaucoup de ce sujet, je ne sais pas. En tout cas, c'est sur ce que nous allons nous arrêter. Sur quoi nous allons nous arrêter. Et je vous propose juste de faire et de suivre la lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Et je lis à partir du verset 29 qui fait le lien avec ce que nous avons dit hier en deuxième partie par rapport à la mouche, c'est-à-dire la langue. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc on se rend compte vraiment que Paul montre bien que l'esprit en particulier est attristé par tout ce qui comporte ou qui est le fruit de la langue dans ce texte-là. Et il termine cette partie, « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc il semble que l'apôtre mette bien cette solution en avant par rapport au mauvais usage de la langue. Soyez ou pardonnez comme Dieu vous a pardonné. On va y revenir plusieurs fois. Alors on entend parfois ces paroles, et peut-être les avons-nous dites nous-mêmes un jour, « Il m'est impossible de pardonner, il m'a fait trop de mal. » Ou bien « Je lui en veux depuis qu'il a fait cela. » Ou encore « Je ne peux plus le voir. » Ni en nature, ni en peinture, comme on dit parfois. Ou encore ceci, je ne peux pas oublier. Des expressions qui, il est vrai, pour ou dans certaines situations, peuvent être comprises. Parler du pardon dans le cadre de l'Assemblée, par rapport à ce que dit Paul ici, avec la condition « parce que Christ vous a pardonné », est quelque chose qui va être compris, même si on va quand même essayer d'entrer dans quelques détails. Mais je suis tout à fait conscient que le pardon en extérieur, dans la vie de chaque jour, sans Christ, et fort heureusement, les païens, sans Dieu, savent pardonner. Mais peut-être ont-ils besoin encore de recevoir l'éclairage du Saint-Esprit pour que le pardon soit peut-être encore plus efficace. Mais quand une personne a vécu des situations difficiles dans une vie où on a entendu parfois ce genre d'expression en extérieur des assemblées, au sortir de tribunaux, ou des jeunes filles ou jeunes femmes violées peuvent avoir ces propos, ou des parents, justement, qui ont subi des drames familiaux, ceux qui ont par exemple eu des personnes proches tuées par les terroristes dernièrement, on les entend dire ce genre de choses aussi. Ça peut se comprendre au premier abord, bien sûr. Et je ne jugerai pas. Et en même temps, on va le voir, combien le non-pardon peut pourrir une vie. C'est comme si on s'auto-détruisait quelque part en refusant de pouvoir pardonner. Mais je ne dis pas que c'est facile. C'est ce que je veux vous montrer. Je ne dis pas que c'est facile. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une grâce supplémentaire, c'est que un modèle qui est celui de Jésus, et en même temps, nous savons qu'il faut travailler à cela, on va le voir, parce que, je le dis encore, ce n'est pas si simple parfois. Il n'est pas dans la nature humaine de pardonner facilement. Mais la qualité de nos relations dans l'assemblée, dans la ruche de Dieu, sera proportionnelle à notre capacité et à notre volonté à pardonner. J'en suis convaincu. Un rabbin juif disait ceci, le pardon est la trame fondamentale de la Bible. Je pense que nous en sommes convaincus, de la première à la dernière page. Et les dons spirituels dont nous sommes qualifiés ne pourront s'exercer correctement, les dons mis en avant, que si l'esprit de pardon est à l'œuvre, quand il faut qu'il soit à l'œuvre. Et pour traiter ce sujet, d'innombrables textes sont à notre disposition dans l'Écriture. Que ce soit Jésus, bien sûr, ou les apôtres, tous traitent de ce sujet abondamment. Mais j'aimerais particulièrement m'arrêter sur une parabole de notre Seigneur. Cette parabole, nous allons la trouver dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, et je lis à partir du verset 23. Matthieu, chapitre 18, verset 23. Je vais la mettre aux vidéos, normalement, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais vous pouvez suivre dans vos Bibles. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait, en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Avant de nous arrêter un peu en détail sur cette parabole et d'en tirer les leçons, il faut regarder dans quel contexte elle est dite par le Seigneur Jésus. Et comme toujours, nous allons voir que c'est le contexte qui va nous permettre de comprendre le but de cette parabole et le thème qu'elle aborde, qui est bel et bien celui du pardon. Qu'est-il écrit avant cette parabole ? Si ton frère va à pécher, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, donc à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » Et le texte poursuit, « C'est pourquoi le royaume des cieux. » Et voyez dans quel contexte Jésus introduit et donne la parabole que nous avons lue. Et nous devons aller à la conclusion de la parabole pour comprendre bien ce qui se passe. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Combien cette parabole du serviteur, de l'impitoyable, est encadrée par la remarque de Pierre et la conclusion de Jésus, qui tombe un peu comme un couperet et qui conclut cette parabole du serviteur impitoyable. Et c'est la remarque de Pierre qui pousse Jésus à donner cette parabole. Nous comprenons alors que Matthieu introduise le récit par « c'est pourquoi ». Pierre, je te réponds. Et Pierre a été touché et interpellé parce qu'il a entendu concernant la manière dont il faut agir avec un frère qui a péché, ce que Jésus a dit auparavant. Et on comprend alors que Matthieu introduise la remarque de Pierre par le « alors » qui lie avec ce qui précède. Nous voyons donc comment tous ces textes sont liés les uns aux autres et permettent de mettre en lumière cette parabole appelée communément, je l'ai déjà nommé, la parabole du serviteur impitoyable ou injuste, qui traite clairement avec puissance et clarté du thème du pardon. Et nous voyons aussi comment Jésus fait le lien entre le pardon reçu et le pardon donné et accordé. Car quand on parle de pardon, nous pouvons être celui qui pardonne, mais nous pouvons être celui qui reçoit un pardon. Et par définition, la réconciliation, c'est comme ça que je vois les choses, je vais peut-être me tromper, mais la réconciliation est l'aboutissement de ces deux pardons, à la fois celui qui donne et à la fois celui qui l'accepte et qui le reçoit. Ainsi, la réconciliation peut être actée. Mais il ne peut pas y avoir, à mon sens, de réconciliation si les deux pardons n'ont pas été tous les deux mis en avant. La grâce dont nous avons été l'objet de la part de Dieu doit changer notre vision des choses et nous permettre, en tant qu'enfants maintenant, de mettre en œuvre le pardon. Vous noterez d'ailleurs que Jésus, dans les premières parties du texte, va nous dire « si ton frère a péché ». C'est donc là une affaire interne à la ruche, interne à l'Église, au corps de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre en œuvre le pardon à l'extérieur, bien évidemment. Mais d'autant plus, vous pouvez le mettre en interne. Que si vous le pratiquez en interne, alors vous aurez plus de facilité à le pratiquer en externe. Et là, le témoignage, la visibilité sera importante et l'impact de l'Évangile aura une force si à l'extérieur, vous savez aussi montrer l'exemple du pardon. Le péché dont parle Jésus dans « Si ton frère a péché » peut être lié à un conflit entre deux personnes, mais il se peut que ce soit aussi une chute qui n'a aucune incidence sur les relations. C'est assez large derrière le terme-là. Mais il y a là une affaire de discipline interne dans l'assemblée qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'il y a un souci. Ce n'est pas le sujet de notre après-midi. Ne pas pardonner devient comme une barrière dressée à travers la route de notre vie et elle s'abaisse. Elle s'abaisse et nous n'arrivons plus à passer pour poursuivre la route. Il y a un obstacle. Et vous l'avez peut-être vécu, peut-être dans le couple en particulier. Quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est flouté et nous pollue. pollue nos relations, mais pollue notre relation aussi verticale avec le Seigneur, si nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu. On va y revenir. Et seul le pardon peut effectivement ouvrir cette barrière et permettre à nouveau le passage. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas vivre librement devant son Seigneur et s'épanouir spirituellement sans entrer, demeurer et être attentif à cette dimension du pardon. Il est la trame fondamentale de l'Écriture. Il est l'essence même de la foi. Combien de personnes blessées dans les assemblées, les églises, pour échapper au regard de telle ou telle personne avec laquelle ils sont en conflit et éviter d'entrer dans cette dimension du pardon, en viennent à faire une différence entre l'assemblée et Jésus-Christ, en disant « nous quittons l'assemblée, mais nous aimons Jésus-Christ ». N'y a-t-il pas là quelque chose qui n'est pas très logique ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de quitter une assemblée, ça peut arriver. Mais si c'est parce que on ne peut pas et on ne veut pas rétablir des relations ou essayer de rétablir des relations par le pardon, pour moi ce n'est pas une bonne excuse pour partir. Et il y aura tôt ou tard des problèmes qui vont suivre par plus tard. On ne peut pas rester insensible en tant qu'enfant de Dieu à cela. Par cette parole, Jésus va donc très loin et nous fait comprendre que le pardon n'est pas une option, mais bel et bien un impératif qui doit sortir des schémas calculateurs que Pierre met en avant lorsqu'il va interpeller et questionner Jésus. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» C'est peut-être une question que nous aurions bien posée aussi de la même façon à Jésus. Pierre, comme d'habitude, et lui, il est très clair, hein, il brûle de décoffrage, hein, il dit ce qu'il pense, hein, et il a pas tort quelque part. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des fois, ça peut être un peu lourd, hein. Et nous pensons peut-être à telle ou telle personne avec qui des relations sont compliquées et vers laquelle nous sommes allés plusieurs reprises accorder notre pardon sans avoir peut-être au retour reçu le sien, d'où la réconciliation impossible. Pierre pense, lui, que pardonner jusqu'à 7 fois semble être pour lui la limite du raisonnable, voire même du supportable. Et il s'attend peut-être à une autre réponse que celle de Jésus, « Je ne te prie pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, soit 490 fois, faisons un calcul. » Alors, si Pierre avait été de mauvaise foi, il aurait pu dire à Jésus, « Ah ouais, d'accord, alors, à la 791e, je suis libéré de pardonner. » N'est-ce pas? Ça pourrait... Mais il ne faut pas prendre ces chiffres à la lettre, bien évidemment. On comprend ce que Jésus veut dire. Il est bien sûr évident que Jésus montre bien ici qu'il faut toujours pardonner, sans tenir des comptes. Parce que celui qui arrive à tenir des comptes jusqu'à près de 490 fois avec la même personne, waouh! Il y a quand même un problème, là. J'ai même à la 10e, il faudrait le réveiller, dire, allez, ferme ton cahier, arrête de compter. On voit l'aberration quelque part. Mais c'est volontaire, en plus les chiffres 7 sont un peu symboliques, n'est-ce pas? Mais j'entre pas dans ce débat-là. On pourrait, et on entend parfois dire, j'ai été assez patient, ça fait tant de fois que je lui pardonne, c'est fini, maintenant il peut toujours attendre. Il peut toujours attendre, mais attendre quoi? 490 fois? Prenez garde à vous-même, dira Jésus, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « je me repens », tu lui pardonneras. Je n'ai pas vérifié, je voulais le faire, puis j'ai pas eu le temps de le faire. Vérifier la chronologie par rapport à ce texte, si Pierre a entendu parler de Jésus, lorsqu'il lui dit « est-ce que c'est jusqu'à 7 fois ?» Est-ce qu'il se réfère à cette parole du Seigneur qui aurait été prononcé un petit peu avant, c'est possible. Et il rebondit un petit peu sur cela. Qu'importe. Jésus montre bien, en tout cas, qu'il y a là un impératif. Et nous discernons aussi combien la patience ici est à l'œuvre, car le pardon est d'une certaine manière synonyme d'épreuve. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours une démarche facile à faire, d'aller pardonner ou de recevoir un pardon. Mes frères, dira Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, et les conflits peuvent être de ces épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. À ce sujet, prenons l'exemple, et nous en prendrons plusieurs dans l'Écriture, de certains Joseph, dont nous connaissons l'histoire, je pense. Lui qui fut haï par ses frères, faut dire qu'il les avait un petit peu titillés quand même, hein. J'ai vu 12 épis se prosterner, c'est un peu de la provoque, c'est peut-être pas rendu compte de ce qu'il disait, mais les autres ont réagi au quart de tour. Bref, qu'importe, il fut haï, il fut battu, enfermé, vendu, nous connaissons ces textes, n'est-ce pas, passé pour mort aux yeux de son père. Puis une fois arrivé en Égypte, il va dans une maison de Potiphar où il travaille, il est accusé d'harcèlement sexuel, on le met en prison. Il cumule, hein, Joseph, il cumule. Et tout ça à cause de ses frères qui l'ont haï au départ et qui l'ont rejeté. N'avait-il pas de quoi, lui, en vouloir à ses frères? Et que lisons-nous dans l'Écriture? Quand les frères de Joseph vinrent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Voyez, eux, par contre, se disent « On le mériterait, quelque part. » Parce que qu'est-ce qu'on lui en a fait à Joseph, hein? Donc, ils s'attendent, à quelque part, à ce que Joseph réagisse comme eux, peut-être, auraient réagi. Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés. » car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Alors Joseph pleura en entendant ces paroles. Ils jouent un petit peu sur la corde sensible, là, les frères. Tu sais, papa, avant de mourir, il a dit ça. Alors si papa l'a dit, n'est-ce pas, qu'est-ce que je peux faire? Et un peu plus loin dans le texte, ses frères, une fois venu en Égypte, se prosterne devant lui, la prophétie se réalise, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu pour juger ce que vous avez fait, quand bien même vous m'avez fait énormément de mal. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Non seulement il leur pardonne, mais en plus il met en place une structure sociale pour les aider dans leur misère parce qu'ils arrivaient d'un pays où la famine sévissait. Les souffrances endurées et acceptées comme étant voulues de Dieu ont certainement enrichi spirituellement Joseph. Et ça, c'est une grâce de pouvoir accepter ce que Dieu nous donne ou nous fait vivre. Et on peut alors comprendre les propos de Jacques que nous avons lus tout à l'heure, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Je ne dis pas que Joseph était parfait, mais dans l'attitude qu'il a avec ses frères, ça frise quelque part la perfection, entre guillemets. En tout cas, vis-à-vis du pardon. On est là dans quelque chose d'un summum extraordinaire. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place, mais par la grâce de Dieu, j'espère que j'aurais fait comme lui. Alors, je voudrais faire deux remarques. Le pardon, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Et il faut peut-être préciser cela. Quand on prend l'exemple du roi David qui est tombé dans la convoitise, l'adultère et le meurtre, rien de moins, Dieu a pardonné ses péchés et il méritait même la mort. Mais il ne lui a pas épargné les conséquences de ses actes. L'épée ne s'est jamais éloignée de la maison de David. 4 brebis, 4 de ses fils seront rendus pour une brebis, Bathsheba, qui avait été prise de force. et 4 de ses enfants sont morts. Et c'est les prophéties qui ont été annoncées par Nathan le prophète à David. Oui, David, tu lui es pardonné. Mais il y a des conséquences qui peuvent être là. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il y aura quelque chose. Et il peut y avoir, malgré un pardon et réconciliation, des conséquences à la situation qui a amené le pardon. Parce que des choses, un peu comme on a dit hier par rapport à la langue, qui sont impossibles à rattraper. Et qui vont être là sous nos yeux tous les jours. Peut-être. Mais par la grâce de Dieu, n'auront plus d'effet sur nous. Ne nous ferons pas souffrir. Ne nous ferons pas mal. Pardonner, ce n'est pas fermer les yeux sur la faute, ni faire comme si rien ne s'était passé. C'est simplement ne plus tenir compte de ce qui s'est passé. Je me souviens avoir vécu dans mon ministère pastoral, lors de ma première église, un conflit important dans l'église avec quelques anciens qui m'ont obligé à démissionner. Et mon union d'église avait essayé d'arranger les choses, on avait pas mal discuté, etc. Et c'était assez dur. Et puis, ils m'ont quand même donné gain de cause. Ils m'ont dit, écoute, voilà, il y a effectivement un problème du côté de certaines personnes et il vaut mieux que effectivement tu partes parce que c'est plus vivable pour toi. Et je me souviens dans l'année qui a suivi, parce que nous étions quittés quand même non pas en haine mais en conflit malgré tout, j'ai écrit pour dire un petit peu à chacun et leur demander pardon pour non pas le fond mais la forme, parce que le fond je pense que les choses étaient justes, mais peut-être sur la forme où j'ai peut-être dit des choses qui ont dépassé ma pensée et j'ai peut-être blessé. Donc je dis voilà, là je vous demande pardon parce qu'effectivement j'ai pu m'énerver, j'ai pu voilà. Et eux-mêmes m'ont écrit après aussi pour faire pareil et accepter, me demander aussi pardon, etc. Mais ça fait 25 ans, je sais plus. Je revois ces personnes, je vais prêcher dans l'église, j'y retourne de temps en temps. Quand je revois ces personnes, je n'ai absolument rien oublié. J'ai des flashs qui viennent, j'ai des discussions qui viennent, j'ai des regards qui viennent de l'époque, mais j'ai aucun mal. Je discute avec eux, je parle avec eux, je les embrasse, voilà. On a eu un moment comme ça dans la vie, ben, ça peut arriver. Pardon. Et là, ça montre que le pardon a été donné, parce qu'il ne fait plus de mal. Mais, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Ma mémoire l'a enregistré. Et je l'ai quelque part. Et c'est la deuxième remarque que je veux faire. Le pardon n'efface pas automatiquement les souvenirs et la souffrance endurée de la personne offensée, mais elle ne me fait plus souffrir. Plus du tout. Joseph n'avait pas oublié, certainement. Et parfois, lorsque nous avons les souvenirs qui reviennent, nous doutons alors même du pardon et nous nous posons la question, mais est-ce que j'ai vraiment pardonné puisque je me souviens encore de telle ou telle chose? Il n'y a pas de rapport pour moi. La mémoire l'enregistre, c'est physique. Le cerveau l'a mis de côté. Mais le sentiment, c'est autre chose. Si je n'ai pas de sentiment de révolte, si je peux regarder droit dans les yeux, je sais que le pardon a été donné et accepté. Tous ces souvenirs en relation directe avec une situation réglée par le pardon qui reviennent à la mémoire, je le répète, c'est important, ne pourront plus me faire du mal et devenir un prétexte à une dispute ou une réaction. Certaines personnes disent, peut-être pour éviter de pardonner, et là aussi c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber, n'en parlons plus, c'est oublié. Mon œil. C'est jamais oublié, on vient de le voir. Mais s'il n'y a pas eu de pardon, ce sera d'autant plus pas oublié. Parce qu'il y aura la haine et le ressenti en plus du souvenir qui vont rester. Ne nous laissons pas piéger en pensant que le temps effacera. Ne pensons pas non plus qu'en déménageant physiquement, géographiquement, le temps nous fera oublier. Non. C'est quelque part. Un peu comme, vous savez, de ces mares d'eau quand on promène dans les bois, où on voit cette eau-là qui est rassemblée, et c'est clair, c'est limpide, enfin on y voit des animaux, on y voit les plantes un petit peu en fond. Mais jetez une pierre et ou mettez-y un petit bâton et allez remuer un petit peu tout au fond là-bas. Et vous allez voir tout de suite que ça va se troubler très vite. Eh bien, un non-pardon et l'attitude « n'en parlons plus, c'est oublié », c'est tasser cela au fond de la mare. Et à un moment donné, de toute manière, mais il faudra que ça se passe. Parce que le Seigneur, si on est enfant de Dieu, va pousser à ce que ça se fasse. Parce qu'il y a un obstacle qui est là. Eh bien, ça va ressurgir. Mais le problème, c'est que ça peut ressurgir avec beaucoup plus de troubles, de force. Parce qu'on en a accumulé d'autres, peut-être aussi, entre-temps. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour cela que Jésus, on y reviendra, va dire, si tu es en colère et si tu as un souci, n'attends pas le lendemain. Ne tasse pas les choses au fond de toi. Alors, revenons à la parabole du serviteur impitoyable qui devait à son maître 10 000 talents. Si l'on considère que un talent équivaut à 6 000 drachmes, cet homme devait 60 millions de drachmes, soit 25 millions d'euros. Ça fait sourire, hein? On a raison quelque part. L'endettement de cet homme est colossal, abyssal. Et Jésus veut faire comprendre à travers cela qu'il est quasiment impossible de rembourser. Et quand il dit à son maître, je te paierai, je dis, mes deux yeux, non, tu paieras jamais, mon ami. C'est pour ça que je vais te la remettre. Il est impossible pour toi de le faire. D'où la réaction immédiate ordonne qu'il soit vendu, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, parce que finalement, oui, peut-être qu'en vendant tout cela, on peut arriver à quelque chose. Et l'exagération du Seigneur est volontaire. Attention, nous sommes dans une parabole. Donc, c'est un récit vraisemblable pour illustrer une vérité spirituelle. C'est le but des paraboles. Tout ne s'explique pas. Donc, Jésus est libre dans la parabole des chiffres et des mots et des situations. Mais il prend, et c'est le terme, le but de la parabole, il prend une situation plausible et peut l'exagérer pour en montrer l'efficacité dans la leçon spirituelle qu'il va donner à la fin. Aussi surprenant que cela puisse être, donc, nous l'avons vu, « Je te paierai tout », dit-il à son maître. Cette parole est une manière de montrer, quelque part, qu'il se fiche un petit peu du monde, et particulièrement de son propre créancier. Alors, dans une histoire vraie, mais on est dans une parabole, on pourrait se dire, mais comment le créancier a-t-il accepté un endettement si fort? Il n'a pas fait un emprunt de 25 millions d'euros de suite. Il s'est endetté petit à petit. Mais c'est pas le but de la parabole. Donc, je le dis, mais en fait, je ferme tout de suite la parenthèse. Donc, tout pouvait être dit, mais c'est sans compter sur un événement inattendu et autant inattendu que scandaleux. Lorsqu'il s'en revient, allégé du poids de cette dette, et vous pouvez imaginer combien cela pouvait l'alléger, je ne sais pas si vous êtes arrivé, je pense certains parmi vous, quand même une fois dans votre vie, à la fin d'un crédit, quand le dernier mois arrive, ça y est, on a payé la maison, on a payé la voiture, il y a quand même un certain bol d'air qui, hein, on a l'impression d'être un petit peu sur des nuages, ouh, ça fait du bien, on se sent moins lourd. Ben lui, il est pareil, il sort de son maître, son créancier, puis il doit aller fréquenter les nuages tellement il est léger, hein, suite au remboursement de sa dette. Tu ne me dois plus rien. Bon, n'allez pas à vos banques pour essayer, hein, ça ne marchera pas. Hein. Et voilà que il rencontre un gars qui lui doit 100 deniers, soit quelques centaines d'euros. En fait, on peut dire la journée d'un ouvrier valait environ un denier. On lui devait donc un peu plus de 4 mois de salaire, grosso modo. Vous voyez la différence? Ça, c'est possible de rembourser. Dans une histoire plausible, 4 mois de salaire, ma foi, ça peut être du temps, mais bon, c'est réalisable. Et c'est pour ça que ce créancier, enfin ce gars-là, lui dit, mais je te les paierai, tes 100 deniers, mais attends un peu et patience envers moi, s'il te plaît. Mais lui, non, le prend par le cou et lui dit, paie ce que tu me dois, je veux mes 100 deniers. En fait, il n'a plus rien, il sort de son maître, il a 25 millions d'euros qui sont partis d'un coup, mais en fait, il n'a peut-être rien en poche. Alors, il se dit, 100 deniers, c'est toujours ça. À la différence de la première somme, bien évidemment, nous sommes dans un remboursement qui est capable. Et malgré les supplications de ce pauvre homme, il ne voulut pas prendre patience et il le traîna immédiatement dans la prison. Il devra y rester jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé, dit le texte. Ce qui sous-entend qu'il va devoir être et peut-être mettre en vente quelques biens propres ou demander de l'aide à des amis. Ce qui est tout à fait possible. Mais ce qui est dramatique dans cette histoire, ce n'est pas la situation de cet homme, mais la réaction du serviteur que nous condamnons sans réfléchir. Réaction disproportionnée qui fait réagir des témoins. Ah, merci Seigneur, il y avait des témoins. Et Jésus les a volontairement mis là, ces témoins, dans la parabole. Ils vont être quelque part le détonateur du scandale. Ils sont choqués, abasourdis, scandalisés, et on les comprend. Ils vont aussitôt le dénoncer au premier créancier, qui lui va convoquer celui à qui il avait remis la dette. Alors on pourrait se dire, oh, ils sont pas gentils les copains là, d'aller dénoncer ce qu'il a fait, alors qu'il était tranquille maintenant, qu'il pouvait être vivre en paix sans avoir sa dette. Et ils ont bien fait, dans la parabole en tout cas, c'est bien ce que Jésus veut montrer. Alors son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout payé ce qu'il devait. Et là, on comprend que c'est pour des années, pour ne pas dire pour la vie. Justice est faite, pourrions-nous dire. Il n'a finalement que ce qu'il mérite. Après tout, ne l'a-t-il pas cherché ? Et Jésus va terminer cette histoire par une application surprenante. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et là, quand on a saisi cette parabole, la disproportion des sommes, la folie du serviteur, cette parole de Jésus nous assoit. Non seulement il revient Jésus sur les propos de Pierre, mais il donne un avertissement solennel qui appelle une explication. On pourrait penser à première vue, d'après les paroles de Jésus, que si je ne pardonne pas aux autres, Dieu va me retirer mon pardon et de fait la vie éternelle octroyée à travers lui. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Sinon, ce serait mon pardon par mes œuvres. J'achèterai en quelque sorte mon propre pardon en pardonnant. Donc plus je pardonnerai, plus moi je serai pardonné et plus peut-être je serai plus près de Dieu. Ce n'est pas l'évangile cela. Mon pardon ne serait plus une grâce, comme cela est bien démontré dans l'évangile, mais un dû. Si donc notre salut éternel n'est pas en cause, que veut dire Jésus ? Eh bien Dieu sera irrité envers moi et son esprit sera attristé. Et on revient dans le contexte d'Éphésiens de tout à l'heure. Être livré au bourreau est donc apprendre dans un sens spirituel. C'est-à-dire que ma conscience sera torturée aussi longtemps que je n'aurai pas pardonné. Il est là le bourreau. Et ça peut durer des années si je ne décide pas de pardonner. Le bourreau, c'est l'Esprit de Dieu quelque part qui va titiller ma conscience pour que je sois poussé à obéir à la parole de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, bien évidemment. Et je prends conscience de cela. Luther disait ceci, « Prends garde au mortel, ce n'est pas celui qui t'offense qui te fait du tort. Toi-même, en ne pardonnant pas, tu te fais un tort que le monde entier en pourrait te causer. » Je trouve ça pertinent, et juste, et biblique. En effet, chaque fois que nous profanons, oublions nos valeurs et notre foi dans des situations qui peuvent devenir des situations conflictuelles, nous souffrons d'une tension intérieure et d'un sentiment de culpabilité qui est bon. Il ne faut pas exagérer la culpabilité. Il faut savoir la doser, bien évidemment, parce que sinon on n'en sort jamais. Mais le pardon naît de la culpabilité. Et cela va nous pousser à une réaction, forcément, aux yeux de Dieu. Vous avez dans la parole deux exemples intéressants à ce sujet. C'est Judas et Pierre. Chacun, à leur tour, à un moment donné dans leur vie, est repris dans sa conscience par la culpabilité. Pour Judas, les remords sont apparus lorsque Jésus est condamné par la foule et condamné à mort. C'est comme si tout à coup, il venait de se rendre compte de ce qu'il avait réellement fait en trahissant Jésus pour 30 pièces d'argent. Comme s'il n'avait pas pensé à la suite. Et que la trahison, simplement, serait faite et qu'après ma foi, les choses iraient pas si mal que ça pour Jésus. En tout cas, pas si loin. Lui, il avait ses 30 pièces. Après Jésus, ma foi, une fois arrêté, on allait le libérer. Peut-être pas de souci. En tout cas, il est surpris. Il est surpris et sa conscience le reprend parce qu'il dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». C'est assez particulier. Mais il faut le relever, cela. Et le mettre, quelque part, à l'honneur de Judas. Il a pris conscience de quelque chose. Pour l'apôtre Pierre, lui, qui est dans une autre situation, c'est au moment où il va renier son Seigneur. Alors qu'il aura dit auparavant, « Moi, jamais je ne te renierai. Moi, j'irai jusqu'à la mort pour toi. » Et quand Jésus traverse la cour du souverain sacrificateur, enchaîné, et que Pierre se trouve là auprès de ce feu, et que voilà qu'il vient de dire pour la troisième fois, « Non, je ne connais pas cet homme », en faisant des jurons, des blasphèmes, Jésus traverse dans la chronologie. Et les regards de Jésus et de Pierre se croisent. Et c'est là Pierre et le coq chantent en même temps. Pierre se met à pleurer. Parce qu'il se souvient que Jésus lui avait dit ça. « Tu me renieras trois fois. » Les pleurs de Pierre sont une prise de conscience, la culpabilité, le souvenir de ce qu'il avait promis et qu'il n'a pas tenu. Et quelque part, pour lui, la chute. Mais ces deux exemples, Judas et Pierre, montrent bien que le réveil de la conscience ne suffit pas pour trouver la paix. Comme dans le processus du pardon, la situation qui est devant moi, je dois pardonner, ne suffit pas pour avoir la paix. Il ne suffit pas de dire je dois pardonner, il faut pardonner pour avoir la paix. Il y a un pas de plus. Parce que Judas, qui n'a eu aucune larme de tristesse selon Dieu, ne voit qu'un seul moyen pour espérer trouver la paix que par le suicide. Triste situation. Aurait-il eu la possibilité, c'est une grande question, d'aller revoir Jésus s'il l'avait pu le faire pour lui demander pardon. Pardonne-moi Seigneur de t'avoir trahi, de t'avoir vendu, mais il fallait que l'écriture s'accomplisse ainsi. Mais une fois que c'était fait, si ce n'est appelé aussi le fils de perdition, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de fils de perdition? Est-ce que Judas avait la possibilité d'eux? Je ne sais pas, je ne réponds pas à cette question. Mais en même temps, Pierre aura une situation complètement différente. Parce que lui, Pierre, saisi par la culpabilité et par l'amour qu'il portait à Jésus, ce que peut-être Judas et certainement Judas n'avait pas au fond de son cœur, pris par la cupidité, par une vie peut-être un peu du monde, qui l'a fait tomber, puisque Satan entre en lui dans le domaine qui était son problème, celui de l'argent en particulier. Pierre, qui aime le Seigneur, eh bien veut à tout prix trouver la relation, retrouver les contacts. Et quand vous lisez la dernière pêche miraculeuse en Jean 21, vous voyez comment Pierre, une fois que l'apôtre Jean, sur le bateau, ayant pas attrapé de poisson avec ses copains, voit ou entendre un homme dire « Pêchez de tel côté et vous allez retrouver du poisson » et dire « C'est Jésus !» Pierre sort du bateau, le premier, pourquoi? Pourquoi était-il pressé? Le texte dit même qu'il ne prend même pas la peine de s'habiller, il part tout nu vers Jésus, parce qu'il veut arriver le premier, parce qu'il veut parler à Jésus. Il ne l'a pas vu depuis qu'il l'avait croisé dans la cour du souverain sacrificateur. Et entre-temps, il est mort, Jésus. Et voilà qu'il leur est apparu deux fois avant. Il est ressuscité. Mais jamais ils ont eu l'occasion d'avoir cette discussion. Et Pierre l'attend, cette discussion. Pour preuve qu'au moment où il se trouve autour du feu, Jésus l'interpelle. Et il ne va pas interpeller Jean ou André. Il interpelle Pierre. Pourquoi Pierre ? Et c'est là qu'il y a ces fameuses questions du Seigneur à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, je t'aime. » Et d'ailleurs, ce « m'aimes-tu », on pourrait remplacer un mot, mais pas dans le contexte de l'Évangile, mais dans notre thème. « Pierre, est-ce que tu me demandes pardon ?»« Oui, Seigneur, je te demande pardon. » On pourrait mettre ça aussi. Mais c'est l'amour qui est mentionné. Parce que derrière l'amour, il y a sous-entendu forcément des actes d'amour. Et l'acte d'amour entre frères et sœurs, c'est forcément celui du pardon. Parce que l'acte d'amour entre Dieu et les hommes, c'est l'acte du pardon. Dieu a tant aimé le monde pour pardonner le monde. Et il a pardonné le monde. En tout cas, ceux qui accepteront son pardon. Trois fois, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. Et par trois fois, Pierre va répondre, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et la troisième réponse est un peu particulière. Il va rajouter un mot intéressant, trois mots. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Comme si Pierre disait, Seigneur, ne va pas trop loin, s'il te plaît. J'ai compris ce que tu veux me dire. J'ai pas trop envie de déballer mon sac devant les collègues. Tu sais toutes choses. Tu sais ce qui s'est passé. Alors, oui, tu sais que je t'aime. Et chaque fois que Jésus, après la réponse de Pierre, va dire, paix mes brebis, eh bien c'est l'acte de pardon qui se réalise. Je te fais à nouveau confiance. Tu es pardonné, Pierre. Tu es le disciple, tu es l'apôtre qui va démarrer. Tu es celui à qui j'ai dit, tu es sur Pierre et sur Pierre je bâtirai mon église. Le diable œuvre à nous faire oublier trop vite que c'est du pardon que nous sommes menés à la vie nouvelle. Et c'est encore du pardon que nous grandissons en sagesse spirituelle. N'allons pas nous régulièrement demander pardon à Jésus-Christ quand nous avons eu une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un mauvais acte. Oui, bien sûr, j'espère en tout cas que nous y allons librement. Nous continuons à le faire. Et c'est là que dans le Notre Père se trouve une parole extraordinaire de Jésus. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une prière que dans nos milieux, nous ne disons pas comme une vaine redite et nous avons bien raison. Parce qu'à force, je me souviens, j'ai parlé de ce Notre Père mardi dernier lorsque je faisais une prédication dans une maison de retraite. Et quand j'ai commencé à dire à force de dire les choses, j'avais affaire à des personnes qui étaient dans un milieu plus réformé ou catholique, quand on dit les choses par répétition, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Et en particulier ce verset-là, j'ai vu des personnes âgées qui faisaient des grands yeux. Et à dire, ah oui, mais il a raison. Je récite Notre Père, je ne sais même pas à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça implique. Facile à dire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On pourrait presque mettre des petites fleurs avec. Hein. Tellement beau. Ouais. Non, mais dans la réalité, c'est moins beau. Parce qu'en réalité, on s'arrête à la première phrase. Pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est bien. C'est génial, Seigneur. Merci. Mais il y a la suite. Comme. Et à la fin de la prière, Jésus, c'est Matthieu qui le marque, revient sur ce thème du pardon. C'est pas pour rien. Quand le Amen vient, Matthieu dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pardon. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces paroles sont une sérieuse application du verset 12 qui était introduit par le car. Et je crois que Jésus ne parle pas ici du pardon de salut qui est acquis. Il n'a pas de mérite. Mais d'un pardon de communion avec le Père en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à la relation avec Dieu et donc à nos prières.
et à la bénédiction de Dieu sur notre vie. Alors que le pardon va nous introduire toujours dans une intimité nouvelle, renouvelée avec le Seigneur. Rendre nos prières aussi efficaces et libérer l'action de Dieu dans une situation. Le refus de pardonner nous éloigne de la communion de Dieu et quelque part nous empêche de recevoir à nouveau le pardon lorsqu'il doit être fait, parce que presque on pourrait l'oublier. Nous devons donc bien saisir que le pardon dont nous avons bénéficié en Jésus-Christ s'accompagne d'une responsabilité, celle de le transmettre en le pratiquant toutes les fois que l'occasion nous est donnée, 70 fois, 7 fois. Et même dans un cas extrême, comme Étienne, alors qu'il est lapidé, dira « Ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur. » Jésus, sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors vous me direz, oui, c'était Jésus, Fils de Dieu, celui qui pardonne par essence. Mais il était homme aussi, à part entière. Et sur la croix, c'est l'homme qui souffre, l'homme abandonné de Dieu, parce qu'il porte le péché. Mais en même temps, Étienne est un homme à part entière, n'est-ce pas? Ce n'est pas un homme divin. Comment Étienne a eu cette ouverture, cette grâce, cette force, alors qu'il recevait les pierres sur sa tête, de dire à Dieu, ne leur impute pas ce péché. J'ai entendu, mais pardonne-leur. Presque qu'ils ne savent pas non plus ce qu'ils font. Si Étienne l'a fait, on peut le faire aussi. Tout est grâce, mais en même temps, tout est affaire de relation et de connexion avec Dieu. Et de force reçue. Le pardon que nous accordons aux autres ne nous donne pas droit au pardon de Dieu, mais constitue le témoignage d'une repentance authentique et de l'accueil du pardon que nous avons reçu. On comprend alors que demander pardon à Dieu sans avoir l'intention de l'accorder soi-même constitue une hypocrisie et devient une preuve que l'on n'a rien compris au pardon même de Dieu que nous avons reçu. Et que nous prenons peut-être un peu trop à la légère. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre, me semble-t-il, la parole de Jésus, « Si vous ne pardonnez aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il y a encore cette parole que nous voulons mettre en avant. Deux paroles, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. » Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Là aussi, on a envie de se faire justice parfois, n'est-ce pas, plutôt que de pardonner et de laisser Dieu à faire. Et cette autre parole « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez, pardonnez, vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée. » Et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si votre mesure, c'est le pardon, alors il n'y a pas de problème. Cette parole nous fait donc saisir que pardonner à un frère le péché qu'il a commis à mon égard, c'est comme annuler quelque part une dette qu'il me doit. Comme le serviteur dans la parabole. Et la Bible considère le péché comme une dette envers Dieu lui-même. Il n'y a rien que nous puissions faire pour rembourser la dette que nous avions sur le dos. Car la nature de notre péché nous coupait de Dieu, bien évidemment, et rien, absolument rien, ne pouvait nous pardonner, ne pouvait nous enlever ce péché, si ce n'est le pardon de Jésus à la croix. Ou en tout cas, la mort de Jésus à la croix. Et le Seigneur le savait. La seule issue, c'est d'aller vers Dieu, avec un cœur contrit, et lui dire, « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je sais que ma dette est énorme, 25 millions d'euros, je suis incapable de la payer. » Et le Seigneur se montrera toujours disposé à faire grâce au pécheur qui s'abaisse, qui s'humilie et qui se repent. Nul n'est impardonnable. Satan veut nous faire croire le contraire. C'est pourquoi l'Écriture ne nous invite pas à sentir que nous sommes pardonnés, mais à le croire. Quand nous apportons notre cœur à Christ, que nous lui demandons pardon, non seulement, c'est vrai, nous pouvons sentir le pardon, parce que l'amour de Dieu est là, la paix de Dieu est là, mais nous le croyons. Vous savez, il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu. N'est-ce pas? Oui, il existe, certainement. Mais croire Dieu, croire ce que Dieu dit s'accomplit, est vrai, est la vérité. C'est la même, je dirais, la base de notre relation avec le Seigneur. Parce que quand nous disons sa parole, nous croyons ce qu'elle dit. Donc si Dieu te dit, tu es pardonné, tu es pardonné. Crois-le. La foi croit ce que Dieu dit et s'en tient à sa parole. Le sentiment, lui, a son assise dans le cœur de l'homme, mais le cœur de l'homme est trompeur. Beaucoup de personnes, malheureusement, dans certaines unions d'église, qui vivent leur foi plus dans des sentiments que dans l'obéissance à l'Écriture ou à la foi en l'Écriture. On avance par expérience, par sentiment. Bien sûr que nous avons des sentiments dans notre cœur, on est fait ainsi. Mais dans le domaine spirituel, ce ne sont pas les sentiments qui doivent prédominer, parce qu'ils sont trompeurs. C'est la foi et l'assurance de ce que Dieu dit va se réaliser. Je pense qu'il y a quand même une nuance importante. Je fais une autre remarque. Dieu, connaissant notre nature oublieuse, a institué le repas, son repas que nous avons partagé ce matin. Quel en était le but? Nous rappeler d'une part à quel prix notre péché a été pardonné. Pour le maître, nous l'avons vu, c'est 10 000 talents. Pour le Christ, c'était la mort. Et d'autre part, pour nous rappeler la décision que nous avons prise un jour, par la foi, de croire à l'efficacité de ce sacrifice, et donc d'un pardon attribué et accompli. Et nous avons tellement besoin de nous le rappeler, cela que le Seigneur nous demande de le faire, littéralement, physiquement, par un acte concret. Bien sûr, nous ne sommes pas dans l'Église catholique romaine, où nous transformons le corps et le sang du Seigneur. Non, c'est un symbole. Faites ceci en mémoire de moi, dira l'apôtre Paul, toutes les fois que vous en boirez et mangez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous réalisez la mort du Seigneur pour vous-même. Donc, ça, nous ne devons absolument pas l'oublier. Donc, si je n'oublie pas que je suis né à la vie chrétienne par le pardon, par le sacrifice de Jésus, alors je ne dois pas et je ne devrais pas oublier de partager et de vivre aussi le pardon dans le sein de la ruche. C'est une évidence. Dieu était en Christ, dira Paul, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pardon donné, pardon reçu. Réconciliation. Je vais à la croix de Christ, Seigneur, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi ma nature de pécheur. Et le Seigneur Jésus me dit, mais je t'ai pardonné, j'ai pris à la croix sur toi. Réconciliation. Et parce que je suis réconcilié avec Dieu, eh bien je suis en communion avec lui, et lui avec moi. Et c'est là que l'Esprit de Dieu prend toute sa place, et fait toute son œuvre. Dans le pardon, Dieu vise la réconciliation, le retour à la maison. C'est ça la réconciliation quelque part. Quand le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont été exclus à cause du péché, eh bien, il a fallu la mort de Jésus pour que nous retrouvions cette communion perdue du jardin d'Éden. Et cette communion, c'est cette réconciliation. Alors, on ne peut pas terminer sur le sujet sans évoquer ce qui précède logiquement le pardon, à savoir les disputes et les colères. Violentes ou non, extériorisé ou intériorisé, justifié ou pas justifié, la colère pollue les relations. Et Un proverbe nous dit, celui qui est lent à la colère apaise les disputes. On est un peu dans le même sujet de la langue d'hier soir. Le serviteur de la parabole se met en colère contre son débiteur. Ce qui pollue leur relation, c'est la dette de l'un et l'impatience de l'autre. Dans la deuxième situation. Et Paul va nous dire une parole dans le texte d'Éphésiens que nous avons déjà lu, mais en amont. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, je l'ai sous-entendu ce texte tout à l'heure, et ne donnez pas accès au diable. Ce passage de l'Écriture nous fait réaliser deux choses, me semble-t-il. La première, c'est qu'à cause de notre mauvaise nature, nous pouvons nous mettre en colère. Il est bien évident que le « si » vous vous mettez en colère montre qu'il faut chercher à éviter de se mettre en colère. Mais on peut se mettre en colère sans commettre un péché puisqu'il est dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Donc ça veut dire que peut-être il y a des colères qui ne sont pas péchées. Oui, il y en a. Mais nous sommes sur un terrain glissant et il faut faire très attention, savoir où est la limite de la colère que j'appellerais justifiée, d'une colère injustifiée. Il y a des situations, en effet, qui nous mettent en colère, comme la faim dans le monde, l'injustice, les violences gratuites sur autrui. On peut rajouter pas mal d'exemples, où la colère peut avoir des effets qui vont amener à des changements, à des situations différentes. Lincoln, je crois, s'est mis en colère alors qu'il était un chrétien engagé contre l'esclavagisme. Et il a tout fait pour que les choses soient arrêtées et abolies. Une colère juste contre l'injustice. Mais la colère est péché ou devient un péché lorsqu'elle éclate d'un mauvais sentiment, qu'elle est motivée par l'orgueil, la haine, qu'elle est motivée par notre ego qui a été piqué au vif et qui veut se défendre. Et c'est la deuxième chose, c'est que si nous sommes tombés dans une colère injuste et incontrôlée, dans le but de faire du mal, le Seigneur nous demande de ne pas attendre le lendemain pour nous réconcilier. C'est-à-dire pour chercher la réconciliation, à savoir... Si je suis en tort, aller demander pardon et attendre de recevoir le pardon, ou l'inverse selon la situation. La haine se nourrit abondamment de cette attente. Et il y en a un qui sait très bien en profiter. Et nous avons peut-être vécu ça dans le couple, n'est-ce pas? Quand on s'est un petit peu frictionné pour une situation ou une autre, et qu'arrive le soir, on se glisse dans les draps, égard à celui qui va toucher l'orteil de l'autre, hein. C'est froid, à tous les sens du terme. Et puis si rien n'a été dit, au petit matin, chacun se lève un petit peu à la va-vite, premier arrivé à la douche, et premier servi à la cuisine. Et puis c'est, passe-moi le beurre. C'est pas du, t'as bien dormi ma chérie? Comment se passe la journée alors qui suit? Ben forcément, on va partir, hein, puis on va se dire, ça va aller, le temps effacera, puis on reviendra à la maison, et on revient le soir, et puis on est tout surpris de voir que notre femme ou notre conjoint nous fait encore la tête. Hein. Parce que peut-être, elle est, ou il est plus rancunier que moi. Oh, il n'a pas passé dessus, va falloir discuter. Et oui, il va falloir. Et s'il est possible, dit ce texte, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, bien particulièrement avec votre conjoint, c'est une évidence, ou vos enfants. Mais, comprenons bien, hein, autant que cela dépend de vous. Car quand j'ai parlé du pardon donné et du pardon reçu, si je donne mon pardon, on peut ne pas me l'accorder. Mais je suis dégagé. Alors, c'est vrai qu'il n'y aura pas de réconciliation. On ne repartira pas bras dessus, bras dessous. On ne sera plus copain-copain. Peut-être. On ne travaillera peut-être plus jamais ensemble. Mais ce n'est plus ma responsabilité. Autant que cela dépend de vous. C'est pour cela que le problème vient parfois qu'on attend que l'autre vienne à nous. On attend que l'autre fasse le premier pas. Quand bien même, ce n'est pas nous qui peut-être avons été le blesseur, mais que nous avons été blessés. Faisons le premier pas. Si nous avons senti qu'il y a un problème de relation, autant que cela dépend de vous. Donc on est chacun rendu responsable, mais c'est génial dans ce sens, parce que dans le corps de Christ, si nous acceptons tous cela, si nous sommes tous rendus responsables, forcément on va se retrouver quelque part. On va même se cogner la tête tellement on va aller précipitamment l'un vers l'autre. Supportez-vous, dira encore Paul, les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Voyez, les deux. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voyez comment lui-même reprend encore la parole de Jésus dont nous avons développé à plusieurs reprises. Parce que vous avez un exemple. Alors prenez-le cet exemple. Et un autre texte intéressant, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hein? Je sais pas où j'en suis là. Bon, c'est un peu perdu là, mon PowerPoint. Oui, tu as dû revenir un peu en arrière. Hein? Oui, c'est ça. Mais en fait, il y avait deux diapos qui étaient la même. Excusez-moi. J'y suis. Voilà. Recherchez la paix avec tout. Donc, on est dans la même pensée autant que cela dépendent de vous. Voilà, j'ai quand même brossé, me semble-t-il, un tableau sur ce thème-là. Il est inépuisable, bien évidemment, et je vous invite à reprendre peut-être une lecture de l'Écriture dans cet esprit-là, d'essayer de rechercher un petit peu, de focaliser un peu plus votre attention sur les textes qui parlent du pardon, pour les méditer et voir ce que vous avez encore à faire devant le Seigneur. Parce que peut-être que vous avez quelque chose à faire dans ce domaine-là. N'hésitez pas, en tout cas, ne pensez pas qu'il faut attendre encore. Faites-le tout de suite. Alors, je récapitule un petit peu ce que nous avons dit pendant ce week-end, hier et aujourd'hui. Tous abeilles, mes différents services, mes complémentaires les uns les autres. Attention à l'usage de la langue, qui produit bien évidemment des effets de colère et de haine, et qui nous impose d'aller au pardon. Alors vous savez, quand j'ai dit le pardon n'est pas si facile, et vous l'avez peut-être certainement vécu, alors travaillons en amont pour éviter justement d'avoir à pardonner. C'est ce que dit Paul dans les derniers textes que nous avons lus. Faites tout pour ne pas avoir à le faire, parce que de toute façon, c'est quand même pas si facile à faire que d'aller pardonner, ou que de recevoir un pardon en tant que personne. Et enfin, bien sûr, ce pardon que nous avons vu. Alors, je terminerai par ce verset de l'apôtre Paul que je voudrais vous laisser un peu comme un mot d'ordre pour votre assemblée, peut-être. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous voyez, il y a comme une condition à avoir cette paix de Dieu, c'est justement de cultiver peut-être notre relation avec Christ pour que la joie nous inonde et déborde autour de nous, pour nous perfectionner les uns les autres à travers les dons que nous avons reçus, chacun pour notre part, dans la communion des saints, comme dira l'apôtre Paul. Nous devons nous encourager et que les plus forts, selon Paul, encouragent les plus faibles, que les plus faibles puissent se sentir épaulés, parce qu'un jour ils vont devenir forts. Et ils vont encourager aussi les faibles qui seront arrivés dans l'assemblée. Ayez un même sentiment, ça ne veut pas dire que vous soyez d'accord sur tout, mais déjà les sentiments de paix, sentiments de pardon que nous avons développés, prêts à le mettre en œuvre, sentiments importants. Vivez en paix, faites tout justement pour que la paix puisse régner au milieu de vous. Et je sais que ce n'est pas non plus si facile parfois, c'est pourquoi il faut aussi de la sagesse, du discernement. Mais là, je fais confiance au Saint-Esprit et au Seigneur Jésus pour qualifier chacun et chacune. Voilà, que le Seigneur vous rende capable de tout cela et nous rende capable, parce que je m'inclus aussi, bien évidemment, je ne suis pas au-dessus de la mêlée. J'ai besoin de vivre ces points aussi dans ma vie. Et voilà, que ce soit pour chacun de nous l'occasion de glorifier le Seigneur avant son retour. Je vous invite encore à la prière, simplement. Je vais le faire pour conclure. Seigneur notre Dieu, que nous sommes reconnaissants encore de ce temps que nous avons passé. Nous avons rappelé des points importants. Nous sommes conscients qu'ils sont capitaux pour notre vie. Ils l'ont été pour que nous soyons devenus tes enfants grâce au pardon que tu nous as acquis à la croix. En tout cas, Seigneur notre Dieu, veuille renouveler en nous ces sentiments que nous avons rappelés. Que nous ayons, comme dit Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin que nous soyons rendus capables de vivre ces relations dans l'Église, dans l'Assemblée. Qualifie chacun ici, Seigneur, et renouvelle ceux qui ont besoin de l'être. Peut-être certains se sont rendus compte cet après-midi que des conflits sont encore là avec des personnes, peut-être. Tu veux intervenir. Tu veux permettre, Seigneur, qu'il y ait des démarches et que les choses ne soient pas encore repoussées. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce, de les encourager, de les aider et de les inspirer. Oui, Seigneur, garde-nous, garde ton Église de toutes ces divisions qui l'ont tellement pourri dans les années passées et qui n'ont pas été un témoignage à ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous t'attendons, Seigneur notre Dieu. Nous t'attendons. Viens bientôt. Viens bientôt nous prendre avec toi. Mais en attendant, Seigneur, il nous faut continuer à travailler et à honorer ton nom. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni en Jésus. Amen.